chant des insectes qui disparaissent. Hein. Malheureusement, on les entend s'éteindre là justement, des insectes qui doucement se taisent aujourd'hui à la une de la science, Héloïse, pour évoquer donc cette nouvelle étude sur la biodiversité, mais cette fois-ci spécifiquement sur les insectes.
Oui Mathieu, c'est une étude menée par des chercheurs australiens qui vient d'être publiée dans la revue Biological Conservation. Les auteurs font état de 40% des insectes en voie d'extinction. Alors est-ce qu'il y a matière au catastrophisme le plus total? On en parle avec Hervé Le Guyader qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite en biologie évolutive à Sorbonne Université. Alors avant toute chose, il faut dire que cette étude, elle n'est pas exhaustive, elle ne s'est pas penchée sur la situation des insectes du monde entier.
Ah, elle n'est pas exhaustive, loin de là, puisque dans le titre, c'est les insectes du monde, et en fait, les données correctes ne correspondent qu'à l'Europe et l'Amérique du Nord.
Oui.
C'est-à-dire, sans l'Amérique du Sud, sans l'Afrique et sans l'Asie du Sud-Est, ça fait toutes les forêts tropicales et équatoriales qui ne sont pas répertoriées. C'est assez bizarre pour un tel travail.
Ouais, ça remet en question les titrailles qu'on pouvait lire justement toute cette semaine, très catastrophistes hein, sur ce
thème. Moi, je trouve que ça remet en question les choses, si vous voulez. Et encore, quand vous regardez les données sur la Chine et sur l'Australie ne correspondent qu'aux abeilles. Vous voyez que il y a rien sur la Russie. J'insiste. Il y a même pas le Canada et la France n'est représentée que par une donnée sur la Camargue. Enfin bon. C'est assez désolant de faire un buzz avec un papier qui quand même, bon, les données sont là, on peut en parler, elles sont pas fausses, mais de là les étendre sur toute la planète, il faut pas exagérer.
Et non seulement le monde entier n'est pas pris en compte, mais toutes les sortes d'insectes ne sont pas pris en compte.
Alors là, si vous voulez, ils ont pris en compte les quatre ordres qu'on appelle les quatre ordres mégadivers, hein, qui sont les diptères, hein, c'est qu'à deux ailes comme toutes les mouches, les lépidoptères, donc les papillons, les coléoptères, lucanes, hannetons, et les hyménoptères, abeilles, bourdons, etc. Mais ces quatre ordres font 80% de la diversité, si vous voulez, j'ai fait les comptes pour l'émission, de décrits sur les quatre ordres mégadivers, il y a 760 000 espèces, et pour tous les hexapodes, pour tous les insectes, on a 920 000 espèces. Donc vous voyez, là, de ce point de vue-là, ça correspond quand même à une bonne étude.
Ouais, donc du coup, ce chiffre de 40%, malgré le côté parcellaire des données, il a du sens pour vous.
40% des insectes menacés de disparition. Hein.
Alors, il a du sens en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire, si vous voulez, dans des circonstances très particulières, ou avec des milieux extrêmement cultivés, avec une agriculture intensive, avec donc des remembrements. Vous voyez, donc vous pouvez pas comparer avec la forêt amazonienne, c'est sûr.
Et ce chiffre donc de 40% d'espèces menacées d'extinction, si on le compare avec le règne animal, par exemple les vertébrés, c'est plus, c'est pareil?
Alors, si vous prenez le dernier rapport de l'IUCN et du WWF, pour les vertébrés, c'est de l'ordre de 15% de vraiment menacés. Donc, c'est un pourcentage bien supérieur et qui correspond d'ailleurs à ce que disent déjà les spécialistes du, je sais pas, Muséum INRA, par exemple.
Et qu'est-ce qui explique cette plus grande vulnérabilité? Quels sont les dangers qui pèsent particulièrement sur les insectes?
Alors, quand vous regardez les choses, de ce point de vue-là, sur les dangers, le travail est bien fait dans le document, les dangers sont les mêmes, hein, c'est-à-dire que c'est perte d'habitat, ce sont les pesticides, ce sont donc les polluants, et arrive en dernier point, j'insiste là-dessus, tout ce qui tourne autour du réchauffement climatique. Souvent, on confond perte de biodiversité avec réchauffement climatique, et le réchauffement climatique a un impact, bien évidemment, mais qui est un impact beaucoup moindre que, par exemple, de manière toute bête, si vous voulez, la perte des haies, par exemple, en Normandie ou en Bretagne, a eu un impact extraordinairement important sur les oiseaux et aussi extraordinairement important sur les insectes, bien sûr. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est aussi la perte des zones humides, qui sont extrêmement importantes, puisque beaucoup d'insectes ont un stade larvaire aquatique.
Et alors, il y a un impact aussi sur les écosystèmes au sens large. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette souffrance des insectes ?
Alors, c'est une conséquence large, puisque d'une part, dans les chaînes alimentaires, les insectes ont une place extrêmement importante. Je viens de parler des oiseaux, vous avez les batraciens, on oublie aussi, il y a les chauves-souris. Dans le papier, ils insistent beaucoup sur les papillons nocturnes, que l'on suit moins que les papillons diurnes, ils sont moins jolis aussi, il faut bien dire. Et le fait de cette baisse d'insectes a un impact important sur tout ce qui est, entre guillemets, insectivore, en n'oubliant pas les petits mammifères que je n'ai pas cités. Et d'autre part, une importance considérable vis-à-vis de la flore, en particulier pour tout ce qui est les pollinisations. Pollinisation, que ce soit au niveau des herbacées ou des arbres, comme les arbres fruitiers, par exemple.
Donc, Hervé Le Guyader, la situation est critique, quand même, dans bien des endroits de la planète, oui. Mais il faut mesurer un petit peu les propos sur les conclusions et les gros titres qu'on peut en faire.
Oui, c'est-à-dire que, comme il n'y a pas de données, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau des forêts. Par exemple, je pense qu'en Afrique, il y a des disparitions. La forêt amazonienne est attaquée. Dans les Philippines, vous avez des déforestations importantes. Vous avez certainement des disparitions, mais il n'y a pas de données. Moi, je suis un scientifique. Il n'y a pas de données, on dit rien.
Ouais. Alors, très vite, parce que ce sera le sujet de la discussion tout à l'heure avec Sébastien Boller, il y a ce paradoxe, finalement, on est face à une situation quand même très très inquiétante. On va, on le sait bien, droit dans le mur, dans bien des secteurs, et pourtant, l'humain ne réagit pas. Quelle est votre explication, vous, par rapport à cela,
Écoutez, moi, j'étais ravi de ce que j'ai entendu. Je suis en train de rédiger un papier là-dessus. Et à mon avis, tout vient du problème du désir et du temps. Tous ces papiers, si vous voulez, on en parle, et puis ça fait comme de l'eau sur la plume d'un canard, on en parle pendant quelques temps, et puis après, tout le monde s'en fout.
Sébastien, c'est exactement ça, pour c'est le coup, on est dans ça. Le sujet.
Oui, hein. Oui. Quelles sont nos motivations profondes? Et quand on regarde au niveau cérébral, les motivations profondes, elles sont très très simples.
On en discute évidemment avec vous dans quelques minutes. Merci beaucoup Hervé Le Guyader d'être venu à la Une de la Science. Merci Héloïse.
À lundi.
Passez un bon week-end.
Mais vous aussi Mathieu.
À lundi.